la question allait aujourd'hui de prendre les personnes dans leurs besoins, dans leur globalité. On parle des aidants de personnes en situation de handicap, comme on peut parler des aidants de personnes plus âgées. La réflexion aujourd'hui, elle est plutôt d'une nécessité de proposer des choses de qualité, alors qui peuvent être multiformes. Le répit, c'est proposer des espaces dont on est sûr que l'on va pouvoir confier peut-être son proche, partager des expériences avec d'autres aidants, prendre soin de sa santé, entre autres, et avoir des réponses concrètes, accessibles et pas attendre l'épuisement pour être dans un besoin nécessaire.
Alors déjà, est-ce que c'est facile d'accepter qu'on a besoin de temps pour soi quand on est aidant, qu'on a besoin de répit ?
Je ne parlerai pas à la place des aidants. Je ne pense pas que ce soit facile parce qu'évidemment, ça nécessite de penser un peu à soi et il y a peu beaucoup de temps pour penser à soi. Par contre, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ce que l'on a observé, moi je ne parle que d'observation, je ne vais pas parler à la place des parents, ce n'est pas ma place. Notre observation, elle est quand même que l'enfant, il va bien quand les parents vont bien. Quand l'environnement est ouvert et qu'il y a des choses qui sont à disposition pour prendre soin de tout le monde. Donc ça, on le sait. Donc ça, si on le sait, il faut le mettre en place.
Donc là, on parle des aidants des familles, mais qu'en est-il des équipes médicales, paramédicales ou dans les structures d'accueil de loisirs ? Est-ce que ces professionnels aussi ont besoin de répit ?
Probablement. Là, on va se centrer, nous, dans le propos plutôt auprès des familles. Je pense que là, ça questionne d'autres sujets comme la question des conditions de travail qui ne doivent pas être des questions mineures, la question de l'acceptabilité de certaines choses et puis de limites dans d'autres. Quand on est confronté à des accueils de personnes avec des charges de difficultés importantes, c'est aussi de pouvoir organiser le relais, des espaces d'écoute et prendre soin des personnes qui prennent soin des autres. Donc ça, là-dessus, ça va ensemble. Le propos pour nous, dans le pôle ressources handicap, c'était de coupler une plateforme qui s'appelle Parentèle, qui propose des actions et puis qui fédère aussi des initiatives. Là, il y en a que je découvre et il y en a que je connais, donc c'est bien. On n'en connaît pas assez. Et puis, de faire en sorte qu'on propose des espaces d'inclusion, puis qu'on propose aussi des espaces de répit pour toute cette sphère, là, cette équipe parents et enfants.
Alors justement, c'est quoi ces propositions ? Parce que vous me dites, il y en a que je connais, d'autres pas. Donc celles que vous connaissez.
Je vais parler de... Malheureusement, c'est pas très poli, mais je vais parler de celles qu'on développe déjà. Il n'y a pas de limite, en fait. On est parti de deux concepts importants, c'est solidaire et inclusif. C'est-à-dire qu'on va s'inscrire d'abord dans des choses qui peuvent se faire facilement. Je pense pas que le répit soit une question d'experts du handicap, mais plutôt... de espaces qui doivent s'inscrire principalement dans le droit commun. Alors, ça peut être des expériences qu'on est en train d'essayer d'essaimer, un centre social qui travaille avec une structure médico-sociale pour proposer des temps de week-end, des temps de soir, des temps de mercredi pour des enfants qui n'ont pas d'accueil d'habitude et pour que les aidants aient la certitude d'avoir du temps pour eux. J'ai parlé d'écolo inclusif tout à l'heure. Ça peut être aussi des week-ends répit. Là, on a des associations qui proposent des actions solidaires avec des gens qui ont des qualifications, puis qui ont la vocation, puis même des parents entre eux qui proposent du temps pour s'occuper des enfants d'autres parents. Et là, je trouve que c'est plutôt génial cette rencontre parce que là, ça révèle les compétences beaucoup plus larges que ce qu'on peut imaginer. Hein. Les possibles sont très importants. Il y a des cafés des aidants, il y a des espaces plus dédiés sur la santé, j'en vois. Des espaces aussi de médiation, j'en connais pas tous, mais voilà, je vais tendre, voilà, thérapie autour de l'animal, de l'artistique, puis le sport, un vecteur de bien-être très important.
Et donc peut-être un frein pour participer à ces activités, ça peut être leur coût supposé aussi.
Oui, c'est un des freins, la communication, l'accès à l'information, c'est aussi notre rôle dans notre plateforme. Après, je trouve que ce que l'on a semé, c'est aussi des collectivités et puis l'État qui ont compris que c'était un enjeu. On attend maintenant des réalisations. On peut donner des exemples. Il y a des collectivités maintenant qui sont prêtes à soutenir des petites structures répi. On voit aussi que la CAF, ça a été annoncé par les collègues tout à l'heure, va ouvrir le volet action sociale au répi. Voilà, l'Agence régionale de santé aussi a financé des projets, va en financer. Je pense qu'on est qu'au tout début de cette question-là.
Alors, une
question. Département aussi, j'ai oublié le département.
Et le département, précisons-le. Donc, j'ai une question à 1 000 euros, parce qu'il me semble que l'on peut avoir du sport sur prescription. Donc, je me demande si, dans le cas de personnes en besoin de répit, ça peut s'appliquer à ce cas de figure-là.
Sur prescription ? Possiblement.
En tout cas, je vois qu'il y a des gens qui disent oui autour de la table. Donc, super, parce qu'on pourrait avoir une réponse. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Alors, je vais allumer les micros, ce serait plus long. Donc, je vois Doriane Laveau à Pas Santé qui se saisit d'un micro. Est-ce que vous savez répondre à cette question alors ?
Oui, tout à fait. Il y a effectivement une loi, enfin un décret qui est passé pour le sport sur ordonnance, sauf qu'il concerne exclusivement les personnes qui sont touchées par une ALD, donc une affection longue durée. Aussi, les aidants ne sont pas du tout compris dans cette loi. Et c'est pareil, ça ne veut pas dire que c'est remboursé. On peut prescrire le sport santé ou plutôt l'activité physique adaptée, mais elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale, du moins pas encore. Il y a des choses qui sont mises en place, il y a des études qui sont en train d'être menées, comme As du cœur, qui visent à faire rembourser le sport sur ordonnance pour les patients qui ont des pathologies cardiaques. Mais pour l'instant, c'est que en cours. Il y a certaines mutuelles, par contre, il faut se renseigner auprès des mutuelles et demander s'ils peuvent prendre tout ou partie. Un petit peu la prise en charge d'APA.
Voilà, et bien merci à vous pour ces éléments de réponse. Alors, autour de ce plateau, nous avons justement des structures invitées qui vont pouvoir nous parler des activités qu'elles proposent. Alors, je me tourne vers vous, Marina Manche. Vous représentez ici l'association Animaux Prêts, médiation animale. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi ça consiste peut-être la médiation animale ? Je crois qu'il y a aussi Laura Delpech qui est zoothérapeute et sophrologue.
Oui, du coup, effectivement, je suis accompagnée de ma collègue. L'idée de la médiation par l'animal, c'est de pouvoir proposer un espace où on permet à l'homme et l'animal de se rencontrer. Nous, au sein de l'association Animaux Prêts, on travaille surtout sur des séances à visée thérapeutique. Donc de façon itinérante où on accueille aussi sur la ferme. On a un super lieu en pleine campagne. Donc on parlait tout à l'heure des contraintes et ça en fait partie. Le fait d'être un peu loin des villes, on se rend bien compte que c'est un frein aussi pour pouvoir accueillir des personnes, notamment autour du répit. Mais l'idée, voilà, c'est ça. C'est de par le biais des animaux, pouvoir travailler en collaboration avec les familles, les référents, pour travailler des objectifs thérapeutiques. Donc ça va de la motricité fine à l'éveil sensoriel, à la stimulation cognitive, la mémoire. Donc c'est assez large et c'est vraiment à destination de tout public avec différentes formes de fragilité et de vulnérabilité.
Alors avec quels animaux vous travaillez ?
Alors nous on a des lapins, des cochons d'Inde, une petite poule, frimousse, et puis des chiens avec lesquels on se déplace. Et sur la ferme, on a en plus trois ânes, une jument et des moutons.
Alors comment ça se passe en fait ? Les personnes viennent à votre rencontre ? Comment vous faites le lien avec l'animal ? Comment ça marche ?
Concrètement, pour vous donner des exemples d'une séance, on accueille sur la ferme des personnes qui sont prises en charge dans un foyer de vie. Elles viennent une fois par mois. L'idée, c'est avec les référents, on travaille sur des objectifs. Donc, il y a des objectifs individuels qui sont posés en fonction des projets personnalisés des résidents. Et donc, avec des personnes, on va plutôt travailler la verbalisation. Donc, vraiment pouvoir mettre des mots sur ses émotions, sur ses ressentis et aussi développer le langage en prononçant le nom des animaux, en fait, déjà tout simplement. Et puis d'autres personnes, ça va être travailler plutôt la motricité fine parce que voilà, on nous fait ce retour qu'elles sont en perte de leur capacité motrice. Donc à travers le découpage des légumes pour les lapins et les cochons d'Inde, on va proposer de faire des brochettes, de manipuler des petites pinces pour travailler ça. Vraiment tout l'enjeu de notre travail en tant qu'intervenant, c'est d'aménager nos séances, de trouver les bons outils pour pouvoir créer du lien et répondre de façon adaptée et cohérente aux fragilités, quoi.
Et alors, pourquoi l'animal, comment dire, pourquoi ça marche en fait sur les personnes peut-être qui sont en souffrance, qui vont pas bien psychiquement, pourquoi ça marche l'animal ?
En fait, l'animal, il a ce pouvoir un peu magique de par lui-même parce que c'est un être vivant, donc déjà dans une interaction instinctive en fait. Et puis, il est non jugeant. Donc, que la personne soit avec des troubles, sans troubles, des handicaps, sans handicap, l'animal, il va réagir pareil, en fait. Et encore plus, avec certaines espèces, moi, je le vois fort avec les ânes et avec le cheval. Il y a des feelings qui se passent entre les personnes et c'est vraiment un échange mutuel. C'est pas que la personne qui va avoir un affect particulier pour l'animal, c'est aussi l'animal qui va renvoyer de lui-même un affect, qui va chercher le contact, qui va venir caresser la main, aller sur les endroits qui peuvent être douloureux. Et en fait, je le vois même, surprise, moi la première, de le voir aussi avec un cochon d'Inde qui était en séance avec moi, avec une personne en foyer d'hébergement, qui, sur plusieurs séances, donc sur différents temps, vraiment des temps bien, bien séparés, le même cochon d'Inde venait voir la même personne et chercher le contact, à monter sur son bras, à venir se blottir dans son cou. On ne le contrôle pas, en fait. C'est ça qui est beau dans ce travail, dans ce métier, c'est qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qui sont belles et magiques.
Et alors, Laure Delpech, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes zoothérapeute et sophrologue. Alors peut-être, comment on devient zoothérapeute ?
Eh bien en fait, faut suivre une formation. Aujourd'hui, c'est des formations qui sont reconnues comme formations spécifiques. À la base, moi j'ai quand même un métier, comme souvent les intervenants en médiation animale, en lien avec la santé quand même. La santé et l'accompagnement des personnes. Donc à la base, je suis éducatrice spécialisée. Et donc voilà, je me suis tournée après donc vers la médiation animale ou zoothérapie. Ce terme zoothérapie est très utilisé en fait en Amérique et au Canada, moins en France. Moi j'ai tenu à me faire appeler zoothérapeute, mais c'est vrai que c'est un terme méconnu encore. On parle plus souvent d'intervenant en médiation par l'animal.
Et donc dans le cadre de personnes qui cherchent des endroits de répit, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ?
Alors justement, j'ai longtemps été une éducatrice en institution. Aujourd'hui, j'ai quitté l'institution pour laquelle j'ai travaillé de nombreuses années et je me suis installée à mon compte parce qu'il était important pour moi aussi. Je vois de plus en plus de familles en fait qui gardent leurs enfants chez eux, qui ne souhaitent pas forcément les institutionnaliser ou qui les institutionnalisent différemment. Comment dire, sur des emplois du temps modulés, c'est-à-dire pas toute la semaine. Et du coup, moi, c'était important en tant qu'éducatrice de pouvoir proposer des actions aussi pour ces parents, pour ces personnes qui ont besoin d'actions un peu isolées, hors institution.
Alors, est-ce que les personnes parlent aux animaux ?
Oui, beaucoup. Puis en plus, les lapins ont des très grandes oreilles pour bien entendre.
Les ânes aussi. Ouais.
Les ânes également. Donc oui, ça marche beaucoup. Souvent, les personnes disent aux animaux ce qu'ils ne disent pas à d'autres humains, en fait, tout simplement. Et c'est là où le rôle du thérapeute, de l'éducateur, de l'intervenant en médiation animale intervient, ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire que nous, on est également cette écoute, on est cette intervention ou non qui va mettre en sens, en fait, tout simplement ce qui se dit, si c'est le bon moment pour le faire. Voilà.
Bien, merci à toutes les deux. Donc on rappelle que votre association, c'est Animaux Prêts. Vous êtes présente sur cet anniversaire, les 12 ans du pôle ressources handicap. Je me tourne à nouveau vers vous, Laurane Davot. Donc vous représentez l'association APA Sport. Vous êtes sophrologue et art thérapeute. Alors est-ce que vous voulez nous en dire plus sur votre travail ?
Donc moi je suis enseignante en activité physique adaptée à la santé. Je travaille en libéral, donc souvent on me retrouve plutôt en centre de rééducation, à travailler en coopération avec les kinés et les ergothérapeutes. Et là, je me suis dit que c'était intéressant aussi de pouvoir continuer de suivre les patients à l'extérieur une fois qu'ils sortent du centre. Donc je suis en libéral et je travaille à domicile. Je vais directement chez eux.
Et qu'est-ce que vous leur proposez en fait ?
C'est de l'activité physique qui s'adapte à leur situation. Donc en fonction de leurs besoins, on va essayer de trouver quelle activité physique va être le plus à même de les amener à une amélioration en fait de leur état. Ou alors, au moins à un maintien, quand c'est pas possible au niveau de l'amélioration.
Et pour les personnes qui cherchent du répit, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ?
Là, pour le coup, moi j'ai juste observé en fait qu'ils avaient besoin de répit, parce que j'ai travaillé en soins palliatifs, j'ai travaillé en centre, j'ai observé ces aides-soignants qui en fait n'en pouvaient plus. Et pendant les réunions interdisciplinaires, pluridisciplinaires, J'ai juste proposé une fois comme ça, est-ce que vous voulez faire une séance de Qigong, comme ce que je propose aux patients en soins palliatifs? Ils m'ont tous regardé et ils m'ont dit, mais tellement, ils étaient tellement ravis que j'ai proposé que on a essayé et ça leur a fait un bien fou. Et après, à chaque fois, je dis, là, il y a un réel besoin aussi. Et de toute façon, il faut partir du principe qu'un aidant ne peut pas aider si lui-même il a besoin d'aide. Donc il faut vraiment prendre soin de l'aidant. Donc les aidants, prenez soin de vous. C'est comme ça, et seulement comme ça, que vous pourrez prendre soin des autres. Donc ne vous oubliez pas.
Merci, je pense que ça fait sûrement écho aux personnes, aux soignants qui ont traversé la crise Covid, ce que vous dites. Est-ce que vous avez vu des personnes venir vers vous dans ce contexte-là, en fait ?
Pas du tout. La plupart du temps, les aidants ne viennent pas vers cette demande en fait, de répit. Ils ne vont pas demander le répit. Il va falloir en fait, mettre le doigt dessus et essayer d'arriver avant qu'ils craquent pour leur dire « là, il y a un problème ». Attends, repose-toi, prends soin de toi, souffle, recentre-toi. Et en fait, c'est plus aux établissements, je pense, de leur proposer. Parce que spontanément, ils vont pas le faire d'eux-mêmes ou très rarement. J'ai jamais vu un soignant qui est venu me voir pour me demander. Et pareil pour les aidants au niveau des familles. Aucun moment, ils sont venus me demander ou quoi que ce soit. C'est toujours, j'ai un patient pour vous. D'accord. Et vous, comment ça va? Mais pourtant, c'est vrai que c'est pas mon travail spécifiquement, puisque moi, je l'adapte à une situation de handicap ou à une maladie chronique. Donc... le besoin de répit, c'est pas une maladie chronique, ce n'est pas un handicap non plus. C'est à la base pas mon travail. Donc c'est juste une observation que moi, en tant qu'activité, enseignant en activité physique adaptée, j'ai pu faire. Et du coup, je mets surtout le doigt sur un problème.
Eh bien, merci. Alors pourvu qu'on vous entende, que les autorités compétentes vous entendent pour faire le relais de ce besoin de répit chez les soignants. Je me tourne à présent vers vous. Alors c'est Madame David, vous représentez l'association La Source,
oui,
service éducation origami. Alors qu'en est-il de vos activités ?
Oui, nous développons au niveau de l'association La Source depuis 2 ans un service d'aide aux aidants que l'on nomme service origami. C'est un service qui est soutenu par l'Agence régionale de santé. L'objectif, c'est d'apporter de l'aide à tous les aidants, c'est-à-dire à la fois aux parents, aux familles qui accompagnent dans un quotidien un enfant en situation de handicap. Mais ça peut être aussi des aidants professionnels, centres de loisirs, écoles de musique, qui accompagnent également des enfants en situation de handicap. Nous intervenons sur le nord-ouest du département, sur les 2 communautés de communes, Gâtine-Choisy et Cété-Val-de-Loire. l'objectif du côté des familles, c'est une forme de répit, des familles qui sont en demande d'aide, de conseils, de soutien. Nous allons leur proposer des entretiens individuels avec 2 professionnels, un psychologue, une assistante sociale, pour les rencontrer régulièrement, échanger sur leur quotidien, leurs doutes, les aider à trouver des astuces, des relais pour accompagner leur enfant en situation de handicap. Ça peut être aussi un café des parents. Des rencontres à thème que l'on peut proposer sur notre territoire pour toutes les familles qui souhaitent échanger avec d'autres parents. On peut également rencontrer de la fratrie aussi, des grands-parents. En tout cas, tout aidant de la famille qui ont besoin à un moment donné de soutien. Et puis l'autre mission, comme je le disais en introduction, cela touche les professionnels. On parle d'inclusion, d'accueillir, d'accompagner des enfants en situation de handicap. C'est parfois nouveau pour certains professionnels, certains domaines. Notre secteur médico-social, on souhaite apporter notre aide également à ces professionnels pour leur apporter un appui avec des échanges réguliers, apporter parfois un autre regard sur la question du handicap aussi, pour faciliter au maximum l'inclusion des enfants.
Eh bien, merci à vous. On me fait signe que l'heure tourne. Donc, je vais me tourner vers Ophélie Der. Donc, vous représentez l'entreprise Mobilang. Alors,
bonjour.
Quel bon vent vous amène ?
Quel bon vent m'amène ? Un sujet intéressant où, effectivement, je souhaitais m'associer. Hein, parce que, comme tous mes confrères, eh bien, j'ai également la chance de pouvoir proposer des aménagements sur mesure du logement pour justement aider au bien-être à domicile des aidés et des aidants. L'idée étant de pouvoir les accompagner sur la conception d'un aménagement qui soit sur mesure. ergonomique, esthétique, et ça de sa conception jusqu'à la réalisation des travaux.
Ça peut être quoi, par exemple, un placard de cuisine qui descend
C'est ça, ça peut être vraiment sur toutes les pièces. Ça peut être les quatre classiques sur une salle de bain qui est encore aménagée d'une baignoire où on va effectivement nous demander de la rendre plus fonctionnelle avec une douche qui soit accessible. Mais ça peut être une cuisine aussi pour qu'elle soit PMR, une personne qui est en situation de handicap, qu'elle puisse continuer à recevoir ses amis, cuisiner avec une cuisine qui soit fonctionnelle. Une chambre avec possibilité également de motoriser l'ensemble de ces pièces aussi pour faire en sorte que toutes les personnes soient le plus autonomes possible.
Et donc vous insistez aussi sur le point esthétique ?
Oui, bah oui, c'est très important. Il faut se faire plaisir. C'est pas parce qu'on a des difficultés de mobilité qu'on n'est pas à l'hôpital. Donc l'idée, effectivement, c'est souvent on me contacte pour réaliser des aménagements contraints et forcés. Hein. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment se faire plaisir et d'être satisfait et de se sentir bien, surtout dans son espace.
Et donc, pour de telles adaptations, en fait, d'un logement, est-ce qu'il y a des aides qui sont prévues ?
Oui, il existe beaucoup d'aides, parfois méconnues aussi du public. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir les conseiller. Et c'est aussi tout l'intérêt de cette journée, c'est de pouvoir rencontrer différents acteurs et d'enrichir notre réseau et de pouvoir, par la suite, de pouvoir renseigner et accompagner les usagers que je rencontre pour pouvoir les aiguiller le mieux possible.